Je sais qu'il est déjà 11h25. D'habitude, on peut dire, bon, est-ce qu'il est déjà 11h25? Donc, on a un choix. Soit on termine à 11h30 et vous pouvez aller manger, ou on suit la direction de l'Esprit-Saint et on reçoit tout ce qu'il veut qu'on reçoit et ensuite on peut aller manger. Qu'est-ce que vous préférez, hein? Donc, on reçoit. Et vous n'êtes pas obligé de rester. Mais vous allez manquer quelque chose si vous quittez, hein? Alléluia. Mais ici, on a entre nos mains une... Comment je dirais ça? Pas juste un livre normal, mais on a la parole inspirée de Dieu. Amen? Le souffle de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Et quand Dieu parle, laisse-moi vous dire que quand on écoute et on reçoit, qu'est-ce qu'il dit? On est changé. On est transformé. Donc ce matin, on va faire notre déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Tout ce qu'elle dit que je peux faire, je peux faire et je vais faire avec l'aide de Dieu. Je vais maintenant recevoir la parole inspirée de Dieu. C'est une semence incorruptible qui va porter du fruit dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardons. Ce matin, on va voir 2 Corinthiens, chapitre 5, c'est notre texte clé, verset 19. Et puis, je vais vous demander aussi, si vous voulez, de regarder, d'ouvrir votre Bible en même temps à Jean, chapitre 4. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et depuis déjà plusieurs semaines, on parle du fait que nous sommes les ministres du rang le plus élevé qui travaillent pour un prince, le prince de la paix, okay, qui est au ciel aujourd'hui, mais nous ne travaillons pas pour lui au ciel, nous travaillons à la cour d'un autre prince, le prince de ce monde, des ténèbres. Nous, notre cité à nous, c'est au ciel. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes les ambassadeurs pour Jésus-Christ. Nous vivons ici sur la terre comme étrangers, c'est le nom du groupe qui était là hier soir, comme étrangers, comme les pèlerins. On est ici comme des voyageurs temporaires. On est des extraterrestres. Tout le monde dit, je suis extraterrestre, un extraterrestre. On dit ça juste pour vous réveiller un peu. Mais c'est vrai dans un sens. Dans un sens, c'est vrai. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. C'est Jésus qui l'a dit. On est ici pour une mission. On est ici avec un but et les objectifs. On n'est pas bizarre. On n'est pas les étranges, mais on est les étrangers. Une grande différence. Bon, je ne suis pas étrange, mais je suis étranger. Mais il y a des choses que je fais que des fois, le monde va penser que c'est un peu étrange. Hein, quand il me voit au restaurant et je prie, des fois, il pense que c'est étrange. Tandis qu'il y a des personnes qui souvent sont touchées par ça. Je parlais, il y a quelqu'un de l'église ici qui était au restaurant chez McDonald's et leur famille priait avant de manger. Et quelqu'un dans le restaurant s'approchait d'eux en disant, ah, et c'était un professeur d'une école, il dit, ah, j'aimerais que tous mes étudiants aurait une famille comme ça, que tous les enfants seraient éduqués comme ça. Amen? Mais il y a beaucoup de monde qui vont voir les chrétiens qui prient sur les repas, ils vont dire, ça c'est un peu étrange. Toi, tu te lèves de bonne heure, dimanche matin, tu vas à l'église, c'est un peu étrange. Dimanche, c'est la journée où on fait la grâce matinée, etc. Non, c'est un peu étrange aux yeux du monde. On n'est pas des bizarroïdes, mais on est quand même pas de ce monde, on est les étrangers sur la planète, on est les ambassadeurs pour Jésus-Christ. On est ici pas juste pour vivre mener une petite vie égoïste, mais on est là pour faire la volonté de Dieu, pour effectuer les affaires du ciel ici sur la terre. Savez-vous que le ciel, il y a un gouvernement au ciel Donc, il y a un roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth. Il est en charge de l'univers entier, mais c'est lui qui est en charge du gouvernement du ciel. Et il nous a envoyé ici, il nous a laissé ici pour effectuer les affaires du ciel ici sur la terre. Qu'est-ce qu'il veut faire sur la terre? Il veut sauver ceux qui sont perdus. Il veut guérir ceux qui sont malades. Il veut donner de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Amen? Alléluia! Il veut faire la même chose qu'il a toujours fait. Mais ici, en Jean chapitre 4, on voit le Seigneur Jésus pendant son ministère terrestre, en Jean 4, une histoire que vous vous rappelez bien de cette histoire. Jésus et ses disciples, ils voyageaient, ils étaient très fatigués, ils se sont arrêtés dans une ville qui s'appelle Sychar. Et là, Jésus, il était très fatigué de son voyage, il a dit, bon, je vais juste me reposer ici à côté d'un puits. Et ses disciples sont allés dans une ville pour acheter les hamburgers ou les poutines ou je ne sais pas, la pizza. Ils sont allés chez Stratos ou je ne sais pas où. Mais ils sont allés acheter de la nourriture. Et Jésus a dit, bon, moi, je vais juste rester là au puits et je vais attendre. Et pendant qu'il était là, il y avait une femme qui est venue. Vous vous rappelez de l'histoire? Et Jésus commençait à parler avec cette femme, que déjà, c'est quelque chose de bizarre parce que les hommes juifs ne parlent pas avec les femmes en public comme ça. Donc, il commence à parler avec elle. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Parce que Jésus a demandé quelque chose à boire. Vous connaissez l'histoire, mais... En fin du compte, Jésus a révélé à cette femme toute son histoire. Par une manifestation d'un don, une parole de connaissance, Jésus savait que cette femme a déjà eu 5 maris, que la personne avec qui elle restait n'était même pas son mari, et surnaturellement, il a dévoilé son cœur. Amen. Et la femme a dit, oh, je vois que tu es prophète, etc. La femme est partie plus tard, elle a cherché toute la ville et elle a amené toute la ville à Jésus. Mais avant qu'elle ait amené toute la ville à Jésus, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Verset 27. Il y a une petite faute de frappe dans vos notes. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi pars-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange, prends un peu de cette... Hey, la poutine est bonne aujourd'hui. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un, lui, aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » C'est sûr qu'il y a des personnes qui pensent que Jésus voulait qu'ils voient les champs naturel, et ça se peut bien que c'était la saison dans le naturel de la moisson et qu'il voyait les champs. Mais ça se peut bien aussi que quand il a dit « Levez les yeux, la moisson est déjà grande », que qu'est-ce qu'il voyait? Il levait les yeux et il voyait cette femme qui venait et qui amenait toute la ville pour voir Jésus. Levez les yeux, regardez, la moisson est déjà prête. Toute la ville s'en vient. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est en nous. Nous sommes ambassadeurs pour lui. Nous travaillons avec lui. Et vraiment, qu'est-ce que je veux faire ce matin? Je veux qu'on sache que le Seigneur Jésus veut qu'on vive ici sur la terre comme il a vécu. N'est-ce pas vrai? C'est pas moi qui l'a dit. Lui en Jean, c'est marqué en noir et blanc. Dieu veut qu'on vive ici sur la terre comme Jésus a vécu. La même chose qui a motivé Jésus est supposée de nous motiver dans la vie. Amen. Et quand Jésus, qui avait faim, il avait soif, il était épuisé de son voyage, il est là et physiquement épuisé, mais il a pris quand même le temps de parler avec une femme. Et cette femme était une personne stratégique, c'était un rendez-vous divin avec une personne clé pour atteindre toute la ville de Sychar. Amen. Et quand ses disciples sont venus avec la bouffe, ils disent, « Rabbi, prends quelque chose à manger. » Il a dit, « Moi, j'ai une nourriture. » Il a Seigneur, quelqu'un lui a déjà donné un sandwich ou quelque chose, hein? Non, non, non. Ma nourriture, la chose qui est ma plus grande motivation, la chose qui me pousse à vivre, la chose qui me donne le goût de vivre, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il avait faim. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus avait probablement faim? Mais il a dit, ça, c'est une bonne occasion pour moi de montrer à mes disciples c'est quoi la vraie raison d'être ici sur la terre. Pourquoi sommes-nous ici? C'est pas pour remplir notre estomac. On vit pas pour nous-mêmes. On vit pour faire sa volonté et accomplir son œuvre. Donc, est-ce que vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de dire avec Jésus, Seigneur, je sais que ma nourriture, ce que je veux, j'ai faim de ça plus que toute autre chose, c'est de faire ta volonté et d'accomplir et achever ton œuvre ici sur la terre. C'est ça que Dieu veut de nous. Et imaginez qu'est-ce qui se passerait dans notre assemblée si tout le monde, à tous les jours, 24 sur 24, 7 sur 7, si on dirait à chaque jour, tout au long de la journée, Seigneur, ma nourriture. Plus que je veux vivre, plus que je veux manger, plus que je veux avoir des belles choses de cette vie, plus que toutes ces choses, je veux faire ta volonté et accomplir ton œuvre. Et si on cherche d'abord son royaume et sa justice, toutes ces autres choses nous seront données par-dessus, comme Stéphanie nous a témoigné ce matin. Elle a eu un bon appartement, mais elle s'occupait des affaires de son père aussi. Elle témoignait à son voisinage. Amen? Alléluia. Donc, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'à tous les jours, à tout moment, on soit rempli de sa passion, de son désir. Il veut qu'on ait la même motivation. Et ça, c'est une recette pour le réveil. Amen?
Amen.
Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre comme ça? Trois choses qu'on peut faire. C'est ça que je veux tout simplement faire, c'est souligner trois choses dans un verset, mais un passage, on peut dire, de Colossiens chapitre 4, versets 2 à 6. Et dans ces versets, on va voir trois choses que vous et moi, nous pouvons faire pour changer notre monde et pour vivre comme Jésus a vécu, pour avoir la même nourriture que Jésus avait. Alléluia. Jésus veut qu'on suive le même régime que lui a suivi. Colossiens chapitre 4, verset 2. Alléluia. La moisson est grande. Les gens sont de plus en plus ouverts à l'Évangile. Est-ce que vous avez remarqué? Même mon fils, l'autre jour, je l'ai amené à l'école pour la première journée de l'école. Et on a prié avec lui juste parce que c'est ça que je faisais à l'école secondaire. À chaque fois que j'arrivais au campus, je disais, Seigneur, merci qu'aujourd'hui, dès que j'arrive sur le campus, que toi, tu arrives sur le campus. Amen. Et toi, tu vas faire qu'est-ce que tu as toujours fait. Donc, Andrew, en débarquant de l'auto, je dis ça qu'on a dit, merci Seigneur, que la lumière de Dieu arrive sur le campus aujourd'hui. Il revient de l'école, il a dit, hey, j'ai amené mon ami au Seigneur aujourd'hui. Donc, déjà, il a dit, première journée de l'école, hein. Il y avait un gars qui il a témoigné avec lui plusieurs fois. Donc, mais ça, c'est une chose, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Les gens sont de plus en plus ouverts à l'Évangile. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tout le monde, chacun de nous, soit sensible et rempli de lui. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire? Trois choses qu'on peut faire. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est fort, ça. C'est pas le message du pasteur Ken, c'est le message du Saint-Esprit ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord que ces paroles sont inspirées de Dieu? On l'a dit, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il a dit aux Colossiens? Il veut nous dire la même chose ici à Drummondville. Il nous dit, c'est Dieu qui nous parle, et il nous demande, il nous exhorte ce matin, persévérer dans la prière. Première chose qu'on peut faire, on peut persévérer dans la prière. Persévérer veut dire quoi? C'est-à-dire que je prie quand j'ai le goût de prier. N'est-ce pas? Oui. Mais ça veut dire aussi que je prie quand je n'ai pas le goût de prier. Donc, je prie quand j'ai le goût de prier. Mais ça veut dire que quand je n'ai pas le goût de prier, je prie quand même. Amen? Alléluia, persévérer dans la prière. On sait que c'est comme ça dans la vie, n'est-ce pas? Il faut persévérer au travail. Est-ce que vous avez toujours le goût d'aller travailler? Hein? Est-ce que vous avez toujours le goût de tondre la pelouse? Avez-vous toujours le goût de payer les factures? Qui a toujours le goût de payer les factures? Toujours. Personne? Moi, j'ai toujours le goût d'avoir quelqu'un d'autre payer les factures, mais non. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que je persévère. Si je ne suis pas persévérant, je vais être dans la noirceur. Amen? Parce que Hydro-Québec va couper mon électricité. Si vous persévérez dans la prière, vous allez dans la noirceur aussi parce que votre communication avec Dieu va être coupée. Et la ligne de puissance entre nous et Dieu, mais pas juste entre nous et Dieu, mais cette ligne va continuer entre nous et le monde. Cette ligne va être coupée. Amen? Savez-vous, Dieu veut, à travers nous, il veut alimenter ce monde. Il veut donner la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Mais si notre communion avec Dieu est coupée, il n'y a pas de puissance qui peut couler entre nous et le monde. Persévérer dans la prière. Qu'est-ce qu'on va prier? Il y a un couple de choses qu'on va prier. Premièrement, on va prier pour les occasions favorables. Tout le monde dit favorable. Dans le français courant, c'est marqué. Est-ce que vous croyez que quand Jean a dit à 1 Jean 5, 14 et 15, « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. » Et si nous savons qu'il nous écoute, on sait qu'on va posséder, on possède qu'est-ce qu'on a demandé. Est-ce que vous croyez que c'est inspiré de Dieu, ce verset? Donc là, on sait que Colossiens 4, 2 dit « Persévérez dans la prière, veillez avec l'action de grâce » et il continue. Qu'est-ce que Paul dit spécifiquement? « Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. » Dans le français courant, c'est marqué « En même temps, priez aussi pour nous afin que Dieu nous accorde une occasion favorable de prêcher sa parole, d'annoncer le secret de Christ. En effet, c'est pour cela que je suis maintenant en prison. » Donc, on sait que c'est la volonté de Dieu de prier pour les portes ouvertes ou de prier pour les occasions favorables, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je veux? Autant que vous avez dans le passé acté votre foi pour recevoir la guérison. Savez-vous qu'on aime ça? On est malade et on sait, « Oh Seigneur, je vais prier, je vais te faire confiance, je vais croire que j'ai reçu ma guérison. » Si vous avez besoin des finances, vous allez dire, « Seigneur, je crois que j'ai reçu l'argent dont j'ai besoin pour payer mes factures. » Mais là, qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut qu'on arrive à un niveau de maturité qui est plus élevé et il veut qu'on lui fasse confiance pour les occasions favorables pour l'Évangile. Et à tous les jours, on devrait prier, « Seigneur, merci qu'aujourd'hui, tu vas m'ouvrir des portes. Aujourd'hui, tu vas me donner les occasions favorables. Si je ne les vois pas tout de suite, c'est pas grave. Seigneur, je crois que j'ai reçu ces occasions favorables aujourd'hui. » Utilisons notre foi pour les âmes. Amen? Vous savez combien c'est facile de devenir égocentré, de penser « moi, moi, je, mes affaires, mes jouets. » Amen? Et la seule différence entre les garçons et les hommes, c'est le prix de leurs jouets. Hein, des fois, on pense, oh, c'est ridicule, un enfant pleure parce que son biscuit est brisé en deux morceaux. Mais les hommes, on va pleurer quand notre muffler est brisé en deux morceaux. Hein? C'est quoi la différence? Il n'y a aucune différence, hein? C'est tout relatif, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on soit mature, il veut qu'on soit grand, il veut qu'on lui fasse confiance, il veut qu'on lui demande, « Seigneur, ouvre les portes pour nous donner les occasions favorables. » Et si on lui demande, il va le faire. Amen. Alléluia. Mais quand il le fait, qu'est-ce qu'on va faire? Dès que j'ai une occasion favorable pour prêcher l'Évangile, il va falloir que je fasse quelque chose avec cette occasion. Si la porte est ouverte devant moi, j'ai besoin d'entrer dans la porte. Et comment est-ce que Dieu va ouvrir les portes? Ça peut être facile. N'attendez pas qu'une lumière descende du ciel et un ange apparaisse au travail, mais ça peut être quand vous êtes en train de parler avec un collègue au travail, la personne commence à dire, « Hey, tu sais, j'ai eu vraiment de la difficulté, telle chose est arrivée dans ma vie, et ça peut être une occasion pour vous, juste une occasion favorable pour glisser un mot. » Vous n'avez pas besoin de sortir votre grosse Bible à 200 livres en disant, « Bon, laissez-moi vous montrer à partir de Genèse. » Des fois, c'est comme ça, oui, aucun problème. Mais souvent, c'est juste une petite semence, le Seigneur veut que vous plantiez. Souvent, c'est juste, hey, je veux juste que vous sachiez qu'il y a de l'espoir, que Dieu vous aime, Jésus vous aime. Et quand vous laissez luire votre lumière devant les hommes, ils vont souvent vous poser les questions. Pourquoi est-ce que vous êtes heureux? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas peur? Et ça va être une occasion favorable. Vous allez les reconnaître. Amen. Donc, mais deuxième chose qu'on va prier, on va prier pour le pouvoir d'annoncer le message comme il faut. Donc, on prie pour les occasions favorables et puis on prie pour le pouvoir d'annoncer le message comme il faut. On a vu ça dans notre texte. C'est marqué, prier en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la grâce en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Amen. Si nous ne parlons pas, le monde ne peut pas être sauvé. C'est aussi simple que ça. Savez-vous que si vous n'ouvrez jamais votre bouche, le monde ne peut pas être sauvé? Est-ce que vous écoutez ce matin? Si on garde le silence, le monde va continuer à aller à l'enfer. Pour être sauvé, il faut entendre la bonne nouvelle. Romains 10, 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment est-ce qu'il peut invoquer ceux qui n'ont pas entendu? Amen. Comment est-ce qu'ils peuvent entendre si personne parle? Comment est-ce qu'ils peuvent parler si personne est envoyé? Amen. Donc, si le monde va se sauver, Dieu n'a pas un plan B. Il va se servir de son Église. Vous et moi, nous allons témoigner de son amour. Nous allons annoncer la bonne nouvelle. Nous allons prêcher. Dieu a choisi que par la folie de la prédication, le monde va être sauvé. Amen. Il faut qu'on ouvre notre bouche. Mais la plupart de nous, incluant moi, on n'a pas une tendance naturelle de vouloir parler aux gens de Jésus. Amen. Savez-vous que quand j'étais jeune, moi, j'étais souvent gêné de parler devant le public. Quand je faisais un rapport à l'école, mon papier shakait de même. Ça, c'est vrai, hein? Je ne voulais pas parler devant le monde. Mais quand j'étais rempli du Saint-Esprit, quelque chose a changé. Amen. Le même apôtre Pierre qui a nié, il a renié Jésus trois fois. Je ne le connais pas, je te jure, je ne le connais pas. Même gars, transformé par la puissance du Saint-Esprit, le jour de Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, a prêché avec hardiesse et assurance. 3000 âmes ont été sauvées. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on va prier? On va prier, Seigneur, ouvre les portes, donne-nous, pas juste pour nous personnellement, mais on va prier ça, imaginez si chacun de vous, à partir d'aujourd'hui et tout au long de la semaine prochaine, vous prierez à tous les jours, avec persévérance, quand tu as le goût, quand tu n'as pas le goût. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, tu vas donner les occasions favorables à mes frères et mes sœurs. Donne une occasion favorable à Jean-Charles, Marianne, à Sonny, Jason, à Donald, à Alice, à Daniel, Céline, à Tania. Donne une occasion favorable à M. et Mme Thérien. Donne une occasion favorable pour Annie, quand elle est au restaurant. Fanny, quand elle est chez Aliment M&M. Et Sylvain, quand il travaille avec les gars de Smith Asphalt. Donne une occasion favorable à mes frères et mes sœurs aujourd'hui. Ouvre une porte pour eux. Aujourd'hui, Seigneur, je te fais confiance. J'utilise ma foi. Je te fais confiance et je sais que tu vas ouvrir une porte aujourd'hui. Mais on n'arrête pas là, on continue à prier, on dit, Seigneur, on prie aussi que tu vas leur donner les paroles, tu vas les aider à annoncer la parole avec hardiesse. Quand la porte est ouverte, ils vont pas manquer l'occasion, ils vont entrer, ils vont frapper pendant que le fer est chaud. Amen. Et c'est pourquoi prier pour le pouvoir d'annoncer le message, Éphésiens 6, 19, c'est dans vos notes, Paul a dit. Et ici, le grand apôtre Paul, il demande la prière. Des saints, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, souligne le mot hardiment, et librement, tu peux souligner le mot librement, le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, tu peux souligner le mot assurance, comme je dois en parler. Quand est-ce qu'on doit parler avec hardiesse, avec liberté, et avec assurance. Amen? Ça, c'est le résultat de la prière. Peut-être vous dites, mais moi, j'ai de la misère à parler aux gens de Jésus. Est-ce que vous avez prié cette prière-là? Avez-vous prié, Seigneur, donne-moi, quand j'ouvre ma bouche, que je puisse parler avec hardiesse, avec liberté et avec assurance? Parce que si vous demandez quelque chose selon sa volonté, vous savez qu'il vous écoute. Pouvez-vous lui faire confiance, avoir la foi pour pouvoir parler? Souvent, les gens me voient et disent, « Oh, mais c'est facile pour toi, tu es le pasteur, et c'est facile pour toi, tu n'es pas gêné. Hein? » Pas d'excuse, hein? Tu penses que c'était toujours facile, hein? Un gars qui casse le français, de me lever et puis parler à tout le monde, et entendre les gens rire. Au lieu de parler des cornes du diable, je parle de cornes. C'est comme le gars qui était en Belgique, c'était un anglophone qui prêchait en français, et il parlait de Jésus qui était supposé d'envoyer la consolateur. Au lieu de dire consolateur, il disait la confiture. Il a promis d'envoyer la confiture, et tout au long de son message, hein, il parlait de la confiture qui a été envoyée. Vous allez recevoir une puissance quand la confiture est arrivée. Sachez que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre la sagesse des hommes. Donc, meilleure chose à faire, c'est oublie toi-même et fonce. Ouvre ta bouche avec hardiesse, avec assurance et avec liberté. Amen? De toute façon, toi, tu es enfant de Dieu. Tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Vous avez une immunité diplomatique, hein? Est-ce que vous savez, hein? Comment est-ce qu'on dit ça en français? Diplomatic immunity. Immunité diplomatique, hein? Donc, si je casse le français et je fais toutes sortes d'erreurs, je vais juste dire, mais moi, je suis ambassadeur et j'ai une immunité diplomatique. Je peux dire qu'est-ce que je veux, la façon que je veux le dire, hein? Non. Priez aussi pour moi, dans le français courant, priez aussi pour moi afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime. Est-ce que ça, c'est bon, n'est-ce pas? Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. C'est bon, hein? On devrait utiliser notre foi dans ce domaine. Puis, deuxième chose qu'on va faire, on a déjà dit qu'il faut persévérer dans la prière, mais aussi, c'est marqué ici, en verset 5 de Colossiens 4, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors. » Donc, deuxième chose qu'on va faire, on va se conduire avec sagesse envers les non-croyants. Comment est-ce qu'on peut se conduire avec sagesse? La Bible dit, « Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes ou le sage gagne les âmes. » Donc, si je vais marcher avec sagesse, me conduire avec sagesse envers les non-croyants, c'est tout simplement, je crois que le mot-clé, c'est « sensibilité ». Tout le monde dit sensibilité. Je vais être sensible à qui? Deux personnes. Je vais être sensible à la personne du Saint-Esprit qui habite en moi. Parce que lui, il a un agenda. Lui, il a quelque chose qu'il veut faire à tous les jours. Donc, si à tous les jours, je me lève et je dis, Seigneur, aujourd'hui, je suis au diapason, j'écoute mon antenne spirituelle et déployée, je suis prêt à recevoir tes instructions. Si je suis en train de me promener et toi, tu veux que je parle à une personne, tu vas juste indiquer dans mon cœur que j'ai besoin de lui parler. Amen? Amen. Je vais être sensible. Je vais être sensible, je vais être conscient de qui est dans mon entourage. Trop souvent, on s'occupe de nos affaires et on ne prend pas le temps tout simplement de lever les yeux et de regarder. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont besoin de connaître Jésus? Amen? Soyez sensible à Dieu qui est en toi, mais soyez sensible aux besoins de ceux qui sont dans votre entourage. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors. Sachez que vous êtes peut-être la seule Bible que les gens vont lire. Sachez que votre vie peut donner l'étincelle qui va allumer le feu du Saint-Esprit dans cette personne. Et des fois, c'est des petites choses. Je m'en souviens bien et j'ai raconté cette histoire parce que, pour moi, dans ma vie personnelle, c'est un des meilleurs exemples que j'ai. Mais quand j'avais 17 ans, j'étais nouvellement baptisé du Saint-Esprit à l'école secondaire et j'avais comme 5 autres amis avec moi qui ont reçu le Seigneur, qui étaient en feu pour Dieu. Et puis, un jour, il y a une jeune fille qui arrive de Chicago. Elle a déménagé de Chicago à Saint-Louis. Elle arrive à l'école secondaire. Elle est là, on a des vestiaires juste dans le corridor. Elle arrive et elle commence à sacrer. Et j'étais là avec un couple de mes amis chrétiens. on n'a comme pas fait de commentaires. On a juste comme prié silencieusement en nous-mêmes. Et elle a dit, c'est quoi le problème avec vous autres missionnaires? Est-ce que vous ne sacrez pas? Et tout ce que j'ai dit, mais j'ai pas on n'a pas besoin de sacrer, on a Jésus. C'est tout ce que j'ai dit, je continue mes affaires. Deux, trois semaines après, on avait une rencontre tous les lundis soirs, et on avait des fois jusqu'à 30 jeunes qui venaient juste pour une étude biblique et le dimanche, c'était tout. C'était vraiment un réveil qu'on expérimentait. Mais elle est arrivée dans le salon chez moi, et je ne savais pas qu'elle était chrétienne, mais elle donne son témoignage. Elle a dit, je vais donner mon témoignage, comment j'ai reçu le Seigneur. Je ne l'avais jamais entendue, parce qu'elle est venue avec une autre fille qui était une amie à moi aussi. Donc, elle commence à parler, tu sais, quand je suis arrivé de Chicago, les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était vous autres. Et là, j'étais au vestiaire, j'ai sacré, puis je voyais tout de suite qu'il y avait comme une petite douche froide que j'ai eue. Et j'ai dit, c'est quoi le problème? Est-ce que vous ne sacrez pas au Missouri? Et Ken a dit, on n'a pas besoin de sacrer, on a Jésus. Elle a dit, cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Toute la nuit, cette phrase tournait dans ma tête. On a Jésus, on a Jésus, on a Jésus. Et je me suis posé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que moi, je n'ai pas Jésus? On a Jésus, on a Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et elle n'arrivait pas à dormir toute la nuit. Le lendemain, elle est allée voir cette fille qui était amie avec moi aussi. Et puis, elle a dit, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait, on a Jésus? Et elle a amené cette fille au Seigneur. Amen. Et des années après, elle suit toujours le Seigneur. Amen. Des fois, c'est juste une petite occasion favorable, mais il faut se conduire avec sagesse. Il faut que notre conduite soit sage. Amen. Alléluia. Et puis, troisièmement, alléluia. Troisièmement, ici en verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, premièrement, on va persévérer dans la prière. Deuxièmement, on va se conduire avec sagesse en rachetant le temps. Dans vos notes, c'est racheter le temps. Et troisièmement, on va choisir bien nos paroles. Vous savez que nos paroles portent soit la vie ou la mort. Ce qu'on dit, ça peut soit bénir ou maudire. Ça peut soit guérir ou blesser. Amen? Et il faut qu'on sache que nous sommes ambassadeurs pour Jésus-Christ et ce que je dis est important. Parce que je représente mon gouvernement au ciel. Ce que je dis, que ça soit bien ou mal, dans le fond, va être un exemple, une illustration. Ça va être, comme j'ai dit, peut-être la seule Bible que les gens vont peut-être lire, c'est nous. Choisissons bien nos paroles. Comme j'ai dit, quand, juste une petite chose comme, hey, on n'a pas besoin de sacrer, on a Jésus. Petite chose. Qu'est-ce qu'il dit? C'est marqué? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. J'aime ça. La Bible ne dit pas que votre parole soit toujours accompagnée de jugement. On n'est pas ici pour juger le monde. On n'est pas ici pour condamner le monde. On n'est pas ici pour dire à tout le monde, vous êtes des méchants pécheurs. Des fois, ça peut arriver que le Seigneur va nous demander, sous son onction, Jean le Baptiste a dit des choses, Jésus a dit des choses, des fois Dieu, il a dit, mais c'était surtout aux personnes religieuses. Il parlait aux religieux, il disait, vous êtes comme des vipères, vous êtes comme des sépulcres, vous êtes comme, il a dit toutes sortes de choses, assez dur. Mais on voit qu'avec les pécheurs, avec les gens de mauvaise vie, avec ceux de la société qui ont été considérés comme le plus bas, il a toujours eu les paroles accompagnées de grâce. N'est-ce pas? Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre à propos à chacun. Amen. Qu'elle soit toujours accompagnée de sel, qu'elle soit toujours accompagnée de grâce et toujours assaisonnée de sel. Qu'est-ce qui arrive quand vous mettez du sel sur la nourriture? Qu'est-ce que ça fait pour la nourriture? Ça donne du goût. Mais si tu ajoutes beaucoup de sel, c'est quoi la prochaine fois que tu vas vouloir faire? Tu vas vouloir boire. Le monde va avoir soif. Que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt et sachez répondre à chacun de la bonne manière. Grâce et sel. Grâce et sel. Donc, vois-tu, c'est une petite recette aujourd'hui que je vous donne. Ce n'est pas qu'est-ce que tu sais qui va faire en rêver à Drummondville, c'est qu'est-ce que tu fais. Regardez-moi, juste une minute. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont prêts à s'engager, à persévérer dans la prière? En priant pour les occasions favorables et en priant aussi pour l'hardiesse, la liberté et l'assurance d'ouvrir notre bouche comme il faut. Que Dieu me donne, qu'il inspire les bonnes paroles quand je m'exprime. Imaginez, juste prenons 2 minutes, imaginez que pour les prochaines 7 jours, qu'est-ce qui se passerait si chacun de vous, sans exception, vous prierez cette prière, « Seigneur, aujourd'hui, ouvre une porte pour moi et ouvre une porte pour tous mes frères et mes sœurs. » Et Seigneur, quand la porte soit ouverte, Seigneur, donne-moi la sagesse pour reconnaître cette porte ouverte. Et Seigneur, donne-moi, aide-moi, quand j'ouvre ma bouche, de parler avec hardiesse, assurance et liberté. Est-ce que vous pouvez imaginer juste là, qu'est-ce qui se passerait dans une semaine? Pour vrai, hein? Je pense que juste dans une semaine, on n'aura plus assez de chaises. Amen? Alléluia. Alléluia. Dieu veut le faire, pas juste avec moi, mais avec tout le monde. Deuxièmement, si on prend une décision, Seigneur, je vais me conduire avec sagesse. Je vais être sensible à toi et sensible à mon entourage. Et Seigneur, je vais choisir bien mes paroles. Je veux que tout ce que je dis soit accompagné de grâce et assaisonné de sel. Imaginez la puissance qui nous serait disponible. Alléluia. Alléluia. Dieu veut le faire. Il veut faire des miracles. Une chose que j'ai eue sur mon cœur ce matin, vous savez, on a des petits traités d'évangélisation. Vous savez, des fois, vous avez de la difficulté à dire beaucoup. On a des petits traités sur la table de livre. En sortant, cherchez une traité pour chaque jour de la semaine prochaine. Je pense qu'on a 7 à personne. Je pense qu'il y en a assez. Imaginez s'il y a tous les jours, vous dites, Seigneur, donne-moi une porte ouverte, une occasion favorable pour pouvoir semer quelque chose avec ma bouche et peut-être laisser un traité avec une personne. Imaginez l'impact qu'on pourrait faire. Amen? C'est le temps pour nous, comme jamais auparavant, de toucher notre entourage. Je sais qu'on a des bobos. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes personnels, qui souffrent, qui ont de la misère. On a tous des défis dans la vie. Amen? Mais savez-vous qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? La meilleure chose à faire quand vous êtes déprimé ou quand vous avez de la difficulté, vous avez de la misère, que ce soit physique, financier ou que ce soit émotionnel ou familial ou quoi que ce soit, la meilleure chose à faire, c'est d'oublier votre ombrie et de regarder ceux qui sont dans votre entourage. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux donner ce témoignage dans 2 minutes? Oui? Elle m'a demandé, viens-t'en. Je sais qu'il est midi. On va quitter juste après ça, mais j'ai à cœur de lui. Elle a dit que j'ai un témoignage que j'aimerais donner, une occasion favorable que quelqu'un m'a donné. Donc, juste.
Je crois que si on prie sincèrement le Seigneur, il va nous diriger pour. Il va nous amener là où il veut nous amener à faire des témoignages, à témoigner aux gens. Et puis, j'ai prié ça, ça fait longtemps. Le Seigneur, je peux même vous dire que le Seigneur peut même nous faire parler en japonais, parce que ça m'est arrivé. À un moment donné, j'essayais de ramasser toutes des choses qui disaient que le Seigneur te bénisse. La façon de dire en haïtien, en africain, en japonais, tout ça. Mais je ne savais pas pourquoi que je faisais ça. J'écrivais toutes... que le Seigneur te bénisse en différentes langues. On avait été dans une marche pour Jésus, puis j'avais rencontré des Japonais, puis ils m'avaient dit, je leur avais demandé comment qu'on dit que le Seigneur te bénisse en japonais. Puis je l'ai écrit sur un papier, puis je ne savais pas pourquoi, mais Seigneur, quand on prie, puis on veut témoigner, Seigneur va se servir de toutes sortes de situations. On avait un dépanneur dans le coin, qu'on restait proche de chez nous, à Saint-Hubert, dans le temps. J'ai traversé au dépanneur, puis c'était un japonais. Et puis, je rentre dans le dépanneur, puis j'ai dit, « Kamino gokagoga arimasyoni. » Là, le gars, il me regarde, il avait des yeux gros. Oh, c'est fantastique, il dit, tu parles mon langage, tout ça. Il était tout surpris de ça, même Sylvain, là, il est capable de dire ça aussi, hein, Sylvain, parce qu'on a déjà parlé de ça. Et puis là, il était tout ébloui de ça parce que j'avais parlé en japonais, tu sais, fait qu'il pensait que je parlais japonais, mais je parlais pas japonais, moi. Fait que ça m'a ouvert des portes à pouvoir lui témoigner. Et puis là, j'ai témoigné. Et puis la semaine d'après, je suis allée au CLSC à Montréal, sur la rue Sherbrooke. Et puis j'ai pris un petit pamphlet qui témoignait justement en japonais. Puis ça amenait le plan du salut sur la dernière feuille. Fait que j'ai donné ça. Puis ça m'a donné l'occasion qu'à chaque fois que j'allais au dépanneur, j'y témoignais. Mais il n'a peut-être pas accepté le Seigneur avec moi, mais des fois, c'est juste notre exemple ou notre parole. Ça peut être juste une parole, puis une autre personne qui va passer, puis qui va arroser, ça va être semé, ça va grandir, puis ça peut se conclure par une autre personne. Toutes sortes de j'ai toutes sortes de petits medleys, de témoignages comme ça. Là, j'en arrête pour plus que 5 minutes, mais le Seigneur, des fois, il va prendre n'importe quelle situation pour nous amener à témoigner, même à parler en africain.
Alléluia. Amen. Tania. Donc, on va terminer dans la prière ce matin. Alléluia. Alléluia. Bon. Alléluia. On vit dans un temps important et stratégique. Je pense qu'on vit dans un temps où il va falloir qu'on soit vraiment prêt à payer le prix et prier le prix. Amen. On veut voir l'accomplissement du plan de Dieu. Mais on ne peut pas dire, « Oh Seigneur, tu as tant de temps dans la semaine pour agir à travers moi. » Souvent, on fait ça à l'église. On dit, Seigneur, OK, bon, tu as jusqu'à 11h30 et puis fais tout ce que tu veux faire. Mais s'il veut faire plus, qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner la chance de le faire. Amen. C'est sûr, on va toujours essayer quand même de viser une heure qui est juste pour l'église. Mais ce matin, je crois dans mon cœur, j'ai vraiment la satisfaction. Je crois qu'on a donné place à l'Esprit Saint dans la louange. Même les prophéties, les exhortations qu'on a entendues, on a eu des personnes prier pour les malades, on a eu des témoignages de 2 personnes, beaucoup de choses qu'on a faites aujourd'hui, mais je crois que chaque chose faisait partie de son plan. Et on avait besoin de chaque élément de cette réunion aujourd'hui. Donc avec les yeux fermés, encore, c'est pas qu'est-ce qu'on sait qui va faire la différence, c'est qu'est-ce qu'on fait. Combien de nous sommes prêts à persévérer dans la prière, à se conduire avec sagesse envers les non-croyants et de choisir bien nos paroles. On va commencer juste avec aujourd'hui et cette semaine, mais qu'est-ce que Dieu veut, c'est qu'à tous les jours, pour le reste de nos vies, on vive de même. Et comme Diane a dit, des fois on va semer, des fois on va arroser, des fois on va récolter. Il y a des fois qu'on ne voit pas le résultat. Mais Dieu est un Dieu qui se sert de tout son corps. Et c'est Dieu qui fait croître la semence. C'est Dieu qui va avoir toute la gloire et l'honneur. Alléluia. Ce matin, on s'était engagé depuis longtemps que le dimanche matin, on va toujours donner l'occasion à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus de le faire. Et avec beaucoup de révérence pour la présence de Dieu ce matin, j'aimerais juste demander, avant que l'Église prie ensemble, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, « Pasteur, moi, je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi, pour mes péchés, qu'il était enterré et ressuscité des morts le 3e jour. » Si tu es là et tu crois à ça et tu es prêt à donner ton cœur à Jésus, tu veux suivre le Seigneur Jésus, peut-être tu dirais, « Mais moi, je crois en lui, mais je n'ai pas encore l'assurance. Je ne suis pas sûr d'avoir la vie éternelle. » Sachez que la vie éternelle, c'est un don gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Donc, avec tous les autres les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, « Pasteur, je veux que tu pries pour moi, je veux donner ma vie à Jésus, je veux être sûr et certain d'avoir la vie éternelle. » Juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne qui a levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ne soyez pas gênés. On va faire cette prière Je crois que la personne qui a levé la main a déjà donné son cœur à Jésus, mais c'est peut-être une occasion de reconsacrer sa vie. C'est important aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait et qui veut se rejoindre à lui en disant, moi aussi, je veux reconsacrer ma vie. Il y a une autre personne. Donc, on va prier tous ensemble cette prière. Père Céleste, ma vie t'appartient. Toute ma vie entière. Je veux être consacré plus que jamais auparavant. Je veux que ma nourriture soit comme la tienne, de faire ta volonté et d'accomplir ton œuvre. Au nom de Jésus, aide-moi aujourd'hui et pour les restants de mes jours de persévérer dans la prière, de me conduire avec sagesse envers les non-croyants et de choisir bien mes paroles, afin que mes paroles soient toujours et en tout temps accompagnées de grâce et assaisonnées du sel. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, on va se lever debout, on va faire un chant.